Place Info. 20h-21h, France Info, les informés.
Nicolas Creusel.
Et bonsoir à vous tous, bienvenue aux informés de France Info. Comme chaque soir, votre rendez-vous de débat sur l'actualité. Au menu ce soir, l'affaire Epstein qui réveille les complotistes aux États-Unis. Ce financier américain qui a été poursuivi pour de multiples agressions sur mineurs, retrouvé mort dans sa cellule de prison. Suicide apparent, dit le FBI. Le gouvernement français, en tout cas certains ministres, demandent une enquête aussi chez nous. On essaiera d'y voir plus clair. En France, tiens justement, ce nouveau type de contestation dans nos débats ce soir. S'en prendre aux permanences des élus, notamment les députés La République En Marche qui ont voté le traité de libre-échange, le CETA. On verra ce qu'en pensent nos débatteurs du soir. Et puis la crise chez les politiques, ce n'est pas qu'en France. En Italie, situation explosive. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, fait voler en éclats la coalition. Son parti, la Ligue, veut déposer une motion de censure. Que peut-il se passer désormais? Enfin, du foot et une question de gros sous qui intéressera aussi nos informés ce soir. La Ligue 1 peut-elle se remettre du départ de la star brésilienne du PSG, Neymar? Il veut partir, le divorce semble consommé. Mais la Ligue 1 avec ou sans Neymar, ce n'est pas pareil. Autour de la table pour disserter de tout ça, nos invités, nos informés du soir, Flore Santisteban, politiste, maître de conférences à Sciences Po, chercheuse au CEVIPOF. Bonsoir Flore.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver. Michel Taube est également avec nous, fondateur du site d'information Opinion Internationale.
Bonsoir.
Et puis Antoine Colonna, rédacteur en chef des pages internationales de Valeurs Actuelles. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous trois d'être là et c'est parti. Jeffrey Epstein est donc mort en prison samedi. L'administration pénitentiaire américaine a évoqué un apparent suicide. Le financier américain poursuivi pour multiples agressions sexuelles sur des mineurs était censé être ultra surveillé puisqu'il avait déjà tenté de mettre fin à ses jours le mois dernier. Du coup, il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment sur d'éventuelles failles, interrogations, spéculations et même théories du complot. Comment vous observez tout ça, Flore, déjà, Flore Santisteban, ce complotisme, cette ère de complotisme qui ressort comme ça aux États-Unis là.
Ouais, absolument, vous avez raison. Mais sur ce sujet, je distinguerai deux choses. Vraiment, le fond et la forme. Sur le fond, ce qui est reproché à Epstein est, je dirais, terrible. Je pense en particulier aux femmes qui ont été victimes de cet homme. Et je dois dire, voilà, mon dégoût.
Et votre frustration peut-être aussi qu'il n'y ait jamais
de procès. Et la frustration qu'il n'y ait, effectivement, vous avez raison, qu'il n'y ait pas de procès et que justice ne puisse pas être rendue à ces femmes. Donc ça, je pense à elle en premier, vraiment ce soir. Après, sur la forme, bon, vous le dites, le complotisme, c'est vrai. On va voir, après, tout cela est quand même instrumentalisé une fois de plus par le président américain, donc je me garderai bien d'analyser en détail. Mais en France, je dois vous dire que vos titres m'ont beaucoup interpellée, notamment le fait pour des ministres, donc membres de l'exécutif, de se permettre de lancer des fatwas, des enquêtes.
On en parlera plus longuement.
C'est vrai que c'est ce qui me choque aussi sur la séparation des pouvoirs.
Oui. Alors, avant qu'on en vienne à la situation française et au débat qui a traversé l'Atlantique un peu à la surprise générale aujourd'hui. Antoine Colonna, votre regard, vous, déjà, sur ce qui se passe aux États-Unis depuis l'annonce de la mort des...
Sur ce qui se passe aux États-Unis, c'est vraiment le constat de ce grand déballage auquel on assiste depuis maintenant quelques années, de cette société qui est profondément malade, en réalité. C'est vraiment un très grave problème. Et qui est cette industrie du cinéma. Il y avait l'affaire Weinstein, il y a l'affaire Epstein. Tout ça est connecté. Ça se passe à très haut niveau dans les hautes sphères.
C'est une société où les femmes sont des objets et si elles veulent réussir, elles deviennent...
Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Eyes Wide Shut de Kubrick qui dénonce un peu ce genre d'ambiance glauque.
Il a 20 ans déjà, le film.
Oui, absolument, mais... C'est tout à fait terrifiant.
Et le rôle peut-être de Donald Trump par-dessus, qui est venu tweeter pour relayer des rumeurs de complotisme.
Parce que tout est politique, évidemment. Et vous avez un problème, c'est que Epstein était très proche des Clinton et il était aussi proche de Trump. Donc tous ces gens-là fréquentent un peu le même monde et ils sont très très embêtés, très gênés de cette affaire. Ça, c'est une certitude.
Michel Taube.
Non, mais il y a une immunité, un sentiment d'immunité, d'impunité des élites américaines, sur laquelle d'ailleurs Donald Trump s'est fait élire en partie par l'Amérique profonde et à laquelle certainement il a pris part, puisqu'effectivement Epstein était très proche de Trump. Alors ce suicide apparent, quelle drôle de formule.
C'est un terme qui surprend déjà.
C'est un terme qui surprend, qui n'a aucune valeur juridique. Soit il y a un suicide, soit on a provoqué sa mort. Ça ne peut pas, il ne peut pas y avoir de suicide apparent. Donc effectivement, il faut espérer que des enquêtes vont permettre d'établir la vérité, ce qui, à mon avis, n'est pas gagné, parce qu'effectivement, Epstein avait certainement beaucoup de choses à révéler, qu'il aurait peut-être révélé lors de son procès.
Et on en revient à ce sentiment de frustration.
Procès qui va très très loin, parce que accusations qui vont très très loin, qui concernent pas que les agressions sur des femmes, mais également sur des enfants. Il était accusé d'avoir mis en place un réseau quasiment international de pédophilie, avec des ramifications sur plusieurs continents, et notamment la France. Mmh. Voilà, donc tout cela est extrêmement dommageable pour l'image des États-Unis et affecte certainement tout le landerneau politique et médiatique new-yorkais et à Washington.
Si on parle justement de complotisme, c'est peut-être parce que on entend dire ici et là que le réseau était avec de telles ramifications et de personnalités si importantes qu'il est peut-être utile que ce monsieur n'existe plus pour qu'il n'y ait pas de procès, pour que des personnalités soient épargnées. C'est ça qu'on entend, et ça fait un peu froid dans le dos quand même, Flore.
Oui, alors moi, je n'ai vraiment aucune information sur ce que ce garçon pouvait révéler, bien sûr. Mais après, c'est vrai que de toute façon, c'est l'air ambiant, d'une certaine façon. Mmh. On le voit aux États-Unis, on le voit en France aussi, où dès qu'une personnalité puissante, tombe, tout de suite, on essaie d'y voir, la marque, soit d'un complot, soit... Et un complot, vous savez, Michel Rocard disait, derrière un complot, il faut souvent voir la bêtise ou l'ignorance. Mmh. Et franchement, je me garderais bien d'avoir ce type de...
Sa mort arrange quand même beaucoup de monde. Hein. Et donc,
mais vous faites le premier complotiste, voilà. Du coup.
Non, simplement, c'est un fait. C'était qu'effectivement, Trump relaie des messages sur Twitter qui accusent Clinton d'avoir participé à un réseau de pédophilie. Epstein avait certainement des choses à révéler sur Trump. Enfin voilà, toute la société américaine actuellement est complètement en émoi, parce qu'effectivement, et d'ailleurs je pense que si les médias américains fonctionnent bien, parce que c'est quand même une société qui, lorsqu'elle fonctionne, a des contre-pouvoirs extrêmement puissants, même s'ils le sont malheureusement de moins en moins, on peut s'attendre à ce que malgré sa disparition, il y ait des informations qui sortent dans les semaines et dans les mois qui viennent. Qu'il y a eu des centaines ou des milliers de victimes, femmes et enfants, et que c'est vis-à-vis d'elles qu'il faut que la vérité se fasse malgré la mort de ce monsieur.
On va continuer de discuter de ce traumatisme un peu, mais je pense que Flore Saint-Esteban, vous n'êtes pas d'accord, vous allez pouvoir répondre et discuter dans un instant, ou alors vous êtes d'accord, on verra bien. En tout cas, c'est juste après l'essentiel de l'info à 20h10 avec Thomas Bénèche.
La ministre des Transports exprime ce soir sa très vive émotion. Un bateau de plaisance s'est retourné aujourd'hui dans la Manche au large d'Agon, Coutainville, tuant 3 enfants. Les 3 adultes également présents à bord sont légèrement blessés, mais sous le choc, une panne du moteur du bateau serait en cause. Un homme de 34 ans retrouvé mort hier dans son appartement à Talence, près de Bordeaux. Il a été tué par balle. La victime, connue de la police et de la justice, venait de rentrer de Guyane. Une enquête est ouverte pour assassinat en bande organisée. Ce n'est pas au gouvernement de décider de poursuites, précise la ministre de la Justice. Déclaration alors que 2 secrétaires d'État, dont Marlène Schiappa, ont réclamé l'ouverture d'une enquête dans l'affaire Epstein. Ce financier américain a été retrouvé mort dans sa prison alors qu'il était poursuivi pour agression sexuelle sur mineur. L'affaire pourrait avoir des ramifications jusqu'en France. Salah Abdeslam, formellement inculpé dans le dossier des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Il y avait eu 32 morts, plus de 340 blessés. Abdeslam est le seul membre encore en vie des attentats du 13 novembre en région parisienne. Le Sénat italien se réunira demain. Pas de consensus trouvé aujourd'hui pour le choix d'une date pour l'examen de la motion de censure déposée par la Ligue, la formation d'extrême droite de Matteo Salvini. Il souhaite la dissolution du gouvernement et des élections anticipées. Enfin, le tennisman écossais Andy Murray retrouve la compétition en simple. Il va jouer ce soir au Masters 1000 de Cincinnati. Il affronte le français Richard Gasquet.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec ce soir Michel Taube du site d'information Opinion Internationale, Antoine Colonna de Valeurs Actuelles et Flore Saint-Esteban, maître de conférence à Sciences Po, chercheuse au CEVIPOF. On était en train de parler de la société américaine gangrénée par de multiples scandales. Et vous le disiez, Flore, ce qui est important désormais, même si Epstein n'est plus là, c'est que les victimes ici et ailleurs, ou là-bas et ailleurs, soient reconnues.
Ah oui, elles n'auront pas de procès, donc effectivement, je suis pas tout à fait d'accord peut-être avec le grand déballage. Je dirais pas grand déballage, je dirais que c'est une libération nécessaire de la parole pour ces femmes, qui n'auront pas la justice pénale et les réparations civiles pour elles et qui du coup n'ont plus que ça d'une certaine façon.
La suite du travail des médias, c'est ce que disait Michel Taub. Vous êtes d'accord, Antoine Colonna ?
Oui, parfaitement. Sachant que sans doute ce monsieur n'a pas agi seul. Il y avait des gens autour de lui, il y avait des complicités. C'est un réseau, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, qui est d'une grande ampleur. Donc ses proches seront sans doute inquiétés et puis il y aura peut-être des complicités qui seront mises à jour.
Alors ce débat, il nous a de manière assez surprenante rejailli jusqu'en France aujourd'hui avec la secrétaire d'État à l'égalité des droits pour les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, et Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, qui ce matin ont demandé l'ouverture d'une enquête en France parce que on croit comprendre qu'Epstein avait un appartement en France et que son réseau aurait peut-être eu des activités ici. Est-ce que c'est le rôle de deux ministres de demander à la justice française de se saisir de cette affaire? En vous posant la question, je vois déjà votre réponse. Michel Taub.
En fait, moi, ce qui m'a un peu choqué dans le communiqué de Marlène Schiappa ce matin et d'Adrien Taquet, c'est qu'en fait, on avait franchement un petit peu l'impression qu'elle prenait prétexte de l'affaire Epstein pour faire la publicité des annonces qui sont prévues pour la rentrée en matière de lutte contre les violences faites aux mâles. Faites aux femmes, annonces qui sont attendues depuis plus de deux ans, depuis qu'elle est ministre. Et ça, je trouvais ça un peu... Enfin, franchement, c'est pas à faire. Et je salue le communiqué de la ministre Nicole Belloubet.
Pour expliquer, parce qu'elle a tout simplement... La ministre de la Justice a juste rappelé que c'était pas le rôle
de... Elle a rappelé le droit. Voilà. Depuis 2013, il est interdit au gouvernement et de surcroît à un membre de l'exécutif de demander des enquêtes judiciaires sur des personnes.
Oui, depuis la loi Taubira, il n'y a plus d'instruction individuel,
au nom de la séparation de l'autorité judiciaire, qui doit être indépendante du politique. Et donc, effectivement, le communiqué de ce matin contrevenait au droit et au respect du droit.
Sur fond d'exploitation politicienne, selon vous ?
Oui, trop de communication tue la communication. Trop de communication tue la communication. À un moment donné, il faut prendre un peu de recul. Et c'est peut-être le problème de ces gouvernements qui sont sans doute... ils ont envie de bien faire. Mais
ils s'affrontent ces ministres, surtout.
Voilà, ouais. Flore Santisteri.
Oui, moi j'étais absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et c'est vrai que ça démontre une première chose, c'est que la communication ne peut pas être un mode d'action. Et puis,
c'est pas la première fois.
Non, c'est pas la première fois.
C'est faire ça qu'on se permet de souligner un peu.
Si vous voulez, on est quand même obligé quand même à chaque fois de le souligner. Et puis donc il y a ça. Et puis il y a le fait quand même que ils sont membres de l'exécutif et que donc c'est particulièrement grave parce que vous imaginez demain, vous, moi, on peut être l'objet d'une attaque comme ça d'un ministre, d'un secrétaire d'État. Pourquoi ? Sur quel fondement ? Voilà, donc ça d'une part, et donc c'est pour ça que c'est très bien que la ministre de la Justice soit montée au créneau, et d'une certaine façon c'est rassurant quand même sur le fait qu'il y a du sérieux dans ce gouvernement.
Elle n'a pas dit qu'il fallait pas que la justice enquête, elle a dit que c'était à la justice de décider si elle enquêtait ou pas.
Exactement, elle a rappelé un principe fondamental de notre droit, de notre constitutionnalisme français, qui est qu'effectivement il y a une séparation des pouvoirs dans ce pays, et que les ministres ne sont pas des procureurs, comme les procureurs ne sont pas des ministres, chacun doit être à sa place, dans son rôle, au travail, et certainement pas, effectivement, à instrumentaliser ça et là des affaires à bon compte.
Et c'est vrai qu'on nous annonce un plan de protection, notamment de l'enfance, hein, puisqu'il y a aussi un volet pédophile apparemment dans cette affaire. On nous annonce des mesures de protection de l'enfance depuis quasiment l'élection d'Emmanuel Macron, on ne les a pas vues venir. C'est particulièrement malvenu, selon vous, d'utiliser ce tempo-là. On est au cœur du mois d'août, il n'y a pas beaucoup d'actualité. Hop, je saisis ça et je fais mon communiqué. C'est comme ça que vous l'interprétez, en tout cas, Michel.
Ça ressemblait fortement à cela, et effectivement, à de la communication politique. Et encore une fois, Marlène Schiappa est secrétaire d'État, 32e ou 33e au niveau de l'ordre protocolaire dans le gouvernement, et la lutte contre les violences faites aux femmes est la grande cause du quinquennat Macron. Et toutes les organisations féministes et de défense des droits des femmes demandent plus que de la communication, demandent des moyens, demandent que le droit évolue plus rapidement. La loi de Marlène Schiappa contre les outrages sexuels dans la rue n'a donné lieu qu'à 700 et quelques contraventions, alors qu'en fait on sait que c'est un phénomène qui est beaucoup plus important que cela. Donc la communication, ça va un temps, mais ça ne peut pas durer éternellement.
On nous annonce
Grenelle,
3 septembre,
contre,
je crois.
Voilà, contre les violences faites aux femmes. Grenelle qui a été obtenu par les organisations militantes. C'est elles qui l'ont demandé et qui l'ont obtenu un petit peu sur une surenchère médiatique aussi, avec le soutien de Muriel Robin. Mais il est temps que que le gouvernement se prenne la mesure des annonces qu'il a lui-même faites depuis que le président Macron est à l'Élysée.
Antoine Colonna, vous
êtes d'accord? Oui, je suis d'accord avec Michel, bien sûr. C'est vrai qu'il ne faut pas donner l'impression au public que le gouvernement est là pour faire finalement ce qu'on fait nous, c'est-à-dire du commentaire.
Mais vous le faites très bien.
Merci beaucoup, c'est très gentil. Le gouvernement doit être essentiellement dans l'action, et pour une raison très simple. Parce que si l'action n'est pas au résultat, enfin, les gens vont être tellement déçus, et tout ça, ça nourrit évidemment d'autres solutions politiques qui sont bien plus désagréables et qui nous mènent n'importe où. Donc c'est ça la grande responsabilité du politique, c'est de parler peu et d'agir bien.
85 féminicides, puisqu'on en est à parler de ça depuis le début de l'année. 121 l'an dernier. On est, disait Marlène Schiappa, sur une régularité glaçante sur France Info. La semaine dernière, elle était notre invitée. Vous pensez vraiment que ce Grenelle, en quelques secondes, peut-être Florence Antistéban, annoncé pour début septembre, ça peut servir à quelque chose? Ou une journée où on réunit tout le monde autour de la table, ça débouche pas toujours? Enfin, Grenelle, c'est un mot dont on se disait souvent que ça fait beaucoup de bruit avec la bouche.
Bah, les solutions, on les connaît, donc on n'a pas besoin d'un énième Grenelle pour savoir ce qu'il faut faire pour ces femmes. En France, il y a des ordonnances de protection qui sont rendues chaque jour contre des hommes qui sont violents. Il faut protéger ces femmes, il faut protéger leur adresse, ce qui n'est pas systématiquement fait. Il faut les accueillir dans des centres d'hébergement qui sont des centres d'hébergement sécurisés, c'est-à-dire sous contrôle de la police ou de la gendarmerie, de façon à les éloigner. Il faut les accueillir avec leurs enfants, il faut les insérer socialement. Il faut les sortir de la spirale de la violence. Pour ça, ça demande des moyens. Et les tweets, c'est bien. Les moyens, c'est mieux.
On a bien compris. Michel. Un dernier mot, peut-être, Michel Thomas. Et puis, on change de sujet.
Mais encore une fois, je pense que Macron a mis la barre très haut en faisant de la lutte contre la violence faite aux femmes la grande cause du quinquennat.
Donc, il faut des actes.
Actuellement, les actes ne sont pas au rendez-vous. Est-ce que le Grenelle, il suffira? Réponse début septembre.
Voilà comment on est passé de l'affaire Epstein aux États-Unis à évoquer les cas très concrets de ces féminicides. 85 depuis le début de l'année dans notre pays. On se retrouve dans un instant, on va parler de politique française et de contestations qui visent directement les députés et leur permanence. C'est juste après le rappel de l'info. Il est 20h20, Thomas Bénèche.
Trois enfants sont morts aujourd'hui dans la Manche après le chavirage d'un bateau de plaisance. Là, c'est passé au large de la commune d'Agon-Coutainville. La vedette s'est retournée. Trois adultes étaient aussi à bord. Ils sont légèrement blessés et sous le choc. Une panne moteur serait à l'origine de ce drame. Une deuxième enquête ouverte contre des policiers de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis. Déjà mis en cause pour l'interpellation musclée d'un jeune homme vendredi à Saint-Ouen. Ils sont soupçonnés d'avoir le même jour conduit dans un hall d'immeuble deux jeunes pour les frapper. Le ministre américain de la Justice dénonce de graves irrégularités à la prison où a été retrouvé mort le financier américain Jeffrey Epstein. Celui-ci y était incarcéré pour des soupçons d'agression sexuelle sur mineurs. L'affaire pourrait avoir des ramifications jusqu'en France. Le parquet de Paris étudie la possibilité d'ouvrir une enquête. L'auteur présumé de l'attaque samedi d'une mosquée en banlieue d'Oslo, en Norvège, derrière les barreaux, il est en détention provisoire. On le soupçonne d'actes terroristes, mais aussi d'homicide. Il est suspecté d'avoir tué sa demi-sœur. En Argentine, la bourse s'est effondrée de 30%, conséquence du revers subi par le président libéral sortant Mauricio Macri. C'était hier lors d'élections primaires, considérée comme une répétition de la prochaine présidentielle prévue en octobre. Enfin, en football, le milieu de terrain de l'équipe des Pays-Bas raccroche. Wesley Sneijder, 35 ans, a laissé entendre dans un entretien diffusé aujourd'hui qu'il mettait un terme à sa carrière. Joueur du FC Utrecht, il a totalisé 134 sélections en équipe nationale, un record.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Les informés de France Info qui ne prennent pas de vacances cet été. Michel Taube avec nous, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Antoine Colonna, rédacteur en chef des pages internationales de Valeurs Actuelles. Et Florence Antistéban, politiste, maître de conférences à Sciences Po et chercheuse au CEVIPOF. On va maintenant parler de ce qui semble être un mauvais feuilleton de cet été. Les saccages de permanence de députés. Une vingtaine de députés déjà pris pour cible depuis le vote par l'Assemblée du CETA, le traité de libre-échange. C'était il y a deux semaines. Et parmi les victimes, Claire Aupetit, plusieurs fois visée, elle est députée de l'Eure et elle racontait sur France Info.
Ça a été carrément, si vous la voyez dans sa voiture, mettez-la dans le ravin. Donc quand je rentrais chez moi, je vous assure que vous avez quelques secondes et quelques minutes, vous n'avez qu'une hâte, c'est que votre porte s'ouvre bien, que vous puissiez rentrer dans votre maison, mais là vous avez une crainte.
Intimidation, menace, permanence taguée, quel est ce climat? Quel regard vous portez sur ce climat, Antoine Colonna?
Bah évidemment, c'est pas un climat souhaitable. C'est une certitude. On peut pas dire l'inverse. Mais la réalité, c'est peut-être que il faudrait que... Vous avez un sondage de l'IFOP là, qui vient de sortir.
Qui montre que les députés sont les moins bien populaires, aimés, hein, 33% parmi, seulement voilà, de bonne opinion.
Parmi la classe politique française, alors que les maires sont à 83%, je crois, d'opinion favorable. Et on n'a jamais vu ça, je crois, dans l'histoire de nos institutions, où on a...
Mais ça ne justifie pas qu'on s'entraîne avec...
Non, mais j'ai commencé par ça, en le disant, mais on ne va pas le répéter 100 fois. Et dire qu'en fait, c'est à eux de réfléchir maintenant au fait qu'ils doivent être des députés, c'est-à-dire des gens qui remontent ce qui se passe dans la nation au pouvoir. C'est ça, un député, c'est pas autre chose. S'ils ne savent pas le faire, il faut vraiment qu'ils réfléchissent, parce que l'exaspération de beaucoup de gens est effectivement, va trop loin, mais il y a une raison.
Flore, Santi-Stéban.
Oui. Alors, je suis un petit peu gênée parce que c'est vrai que, en fait, bon, indépendamment des qualités des uns et des autres, est-ce qu'ils remontent les informations, est-ce qu'ils les remontent pas, est-ce qu'ils font leur job de terrain, bon, moi, je suis pas là pour juger, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une résurgence d'une forme d'anti-parlementarisme qui, là, pour le coup, m'inquiète, parce que alors, sans faire le point Godwin, mais dans notre histoire, quand même, on a vu à quoi ça pouvait mener le fait de vouloir déstabiliser comme ça les membres du Parlement.
Faire pression sur leur vote de manière très claire, avec des intimidations.
Oui, et puis alors, si vous voulez, aussi quand même, il y a un sujet politique, c'est quel mandat pour le député ? Parce qu'on a quand même eu toute la crise des Gilets jaunes avec une demande de démocratie directe de plus en plus forte, avec des demandes de mandat impératifs. Et c'est vrai que si vous regardez sur le fond, et ça n'excuse pas la violence, mais sur le fond, le CETA n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron a fortiori, n'a pas été, expliqué aux Français, peut-être dans le débat public comme ça aurait dû l'être. Résultat, les agriculteurs, puisque ce sont eux qui sont concernés, au premier chef, sont extrêmement remontés. Bon, et cette colère, comment est-ce qu'il l'extériorise ? En dégradant des permanences.
Il y a 20 ans, jour pour jour, il démontait un McDo à Millau, donc c'est aussi une autre forme de contestation.
C'est un mode d'action.
Et ça a lancé la carrière de José Bové.
C'est un mode d'action direct qu'on peut réprouver, parce que je suis pas sûre que ça produise beaucoup d'effets sur la ligne politique de la majorité, mais qui est l'expression d'une colère. Et vous savez, Boltanski disait, quand vous souffrez, la première chose que vous cherchez à faire, c'est dénoncer cette souffrance.
En attaquant peut-être les symboles ou ceux qui sont au pouvoir. Michel Taube.
Alors, pour moi, il y a deux choses dans ces dégradations de permanence électorale d'En Marche. D'abord, à certains égards, c'est une réplique du tremblement de terre des Gilets jaunes qui a eu lieu tout au long de l'année scolaire qui vient de s'achever. Mais il y a aussi le volet agricole, parce que près d'un tiers des attaques, entre guillemets, contre ces permanences ont été signées et assumées par des agriculteurs, et notamment par des fédérations départementales de la FNSEA, qui est le premier syndicat agricole français. Et moi, j'aimerais rapprocher ces comportements de ce qu'Emmanuel Macron avait fait au Salon de l'Agriculture en mars dernier. Il avait passé 13 heures à arpenter les couloirs, les allées et les stands du Salon de l'Agriculture. Il avait discuté avec des centaines d'agriculteurs. Il avait serré des milliers de mains. Il avait montré sa proximité. Mais qu'est-ce qui a suivi derrière ? Je veux dire par là que les agriculteurs se sentent trahis avec le vote du CETA.
Il y a eu les états généraux de l'alimentation qui étaient censés rééquilibrer
exactement.
Tout ça.
Mais en quoi ces états généraux et les mesures qui ont suivi, en quoi les 13 heures passées par le président de la République dans les allées du Salon de l'Agriculture ont-ils changé la donne pour les agriculteurs ? Et c'est vrai qu'avec le vote du CETA, ils se sont sentis trahis. Écouter dans un premier temps, puis abandonner. Alors peut-être de façon un petit peu injuste, parce qu'Emmanuel Macron a été clairement élu sur un programme relativement libéral, et le CETA, ça n'est que un accord de libre-échange parmi d'autres, comme il y en a de plus en plus dans le monde entier. Mais il y a au niveau des agriculteurs un sentiment de trahison et d'abandon qui fait que même l'organisation la plus structurée, la plus représentative, n'arrive plus à tenir ses troupes et voit certains de ses membres. Et encore une fois, il y a des responsables départementaux qui vont avoir affaire à la justice parce qu'ils assument d'avoir de s'en être pris à des permanences électorales, ce qu'il faut évidemment condamner.
Et sur la popularité des députés si basse que vous citiez justement, Antoine Colonna de Valeurs Actuelles, dans ce sondage hier IFOP dans le JDD, est-ce qu'on n'est pas en train de payer là aussi le fonctionnement de notre 5e République, présidentielle avant législative, législative qui ont été en 2012 simplement une chambre d'enregistrement? On a voté pour pour des gens qu'on ne connaissait pas. Ils avaient l'étiquette LREM, il fallait donner une majorité à Macron. Enfin, la majorité des Français ont voté comme ça, sans connaître forcément. Et donc, on se retrouve avec des élus qui sont coupés du monde, Michel Thom.
Une chose est certaine, Emmanuel Macron, la première loi qu'il a fait voter en tant que président de la République, c'était une loi sur la confiance dans la vie politique. C'est la loi que portait François Bayrou avant qu'il ne doive quitter le gouvernement. Évidemment que cette confiance n'a pas été renouée, bien au contraire. La défiance de nos concitoyens vis-à-vis de leurs élus, surtout leurs élus nationaux...
C'est une loi qui arrivait après l'affaire Fillon et la campagne.
Exactement, mais cette loi s'appelait la loi sur la confiance dans la vie politique. Et effectivement, la promesse macronienne de révolution et de renouer la confiance de nos citoyens avec la politique n'a pas été honorée. Et on le voit dans ce sondage de JDD de dimanche, qui est extrêmement dur. Le plus dur dans ce sondage, c'est seulement 20% des Français considèrent honnêtes nos femmes et nos hommes politiques.
Ça, c'est seulement 20%,
c'est quand même très très dur. Et ça en dit long sur le chemin qui reste à parcourir pour renouer la confiance.
On va poursuivre ce débat de l'autre côté des infos de 20h30. On parlera aussi d'ailleurs de la crise de confiance en Italie, où alors là, la situation politique est apocalyptique. C'est donc dans quelques instants. Restez avec nous sur France Info.
France Info Météo, avec Gauthier, séjour, salon, chambre et dressing. Le mobilier pour toute la maison à retrouver dans nos magasins et sur gauthier.fr.
Et on retrouve Elodie Calac, Météo France.
Plus de soleil demain sur le sud-est, il brillera toute la journée. Le vent de nord-est sera marqué jusqu'à 70 km à l'heure. Sur les régions voisines de la Manche, déjà quelques averses le matin. Elles gagneront la région parisienne l'après-midi. Ça deviendra plus instable d'ailleurs de l'Île-de-France jusqu'au nord de la Seine avec un risque d'orage, du grésil, du vent. Ailleurs, le soleil aura l'avantage. Le matin, il faudra quand même composer avec quelques brumes fugaces entre le centre et le bassin parisien. Des grisailles plus tenaces au pied des Pyrénées et du massif central au nord-est. Pour les températures, peu de changements. Petite baisse parfois, 8 à 14 degrés le matin, jusqu'à 17 à 23 pour le sud-est. Et l'après-midi, 19 à 24 degrés prévus, jusqu'à 31 autour de la Méditerranée.
Merci Elodie Calac et passez une belle soirée sur France Info. Il est 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Le tour de l'info en 3 minutes à Maya Cazenave.
Il y a eu de graves irrégularités dans la prison fédérale où a été retrouvé mort Jeffrey Epstein. Déclaration du ministre américain de la Justice. William Barr s'est dit consterné et franchement en colère. Plusieurs médias américains affirment que le financier a été laissé seul dans sa cellule alors qu'ils étaient censés être deux détenus et que les rondes prévues toutes les 30 minutes n'avaient pas été respectées. Ce drame dans la Manche cet après-midi, 3 enfants sont morts dans un accident de bateau au large d'Agon-Coutainville. Pour une raison encore inconnue, Benoît Martin, leur embarcation a chaviré.
L'accident s'est déroulé vers 15h30 cet après-midi. Une vedette à moteur de promenade s'est retournée pour une raison qui reste à déterminer. À son bord, 6 occupants, 3 adultes et 3 enfants. Immédiatement prévenu par des témoins, le Croche-de-Bourg a dépêché sur place d'importants moyens de secours. Plusieurs embarcations de la SNSM ainsi que des navires de l'école de voile voisine. L'hélicoptère de la sécurité civile a également été envoyé en renfort au-dessus de la zone. Les 3 adultes éjectés lors du naufrage ont pu être rapidement repêchés. En revanche, les 3 enfants seraient restés coincés dans le navire plusieurs minutes avant d'être dégagés et ramenés comme les adultes sur le rivage pour être pris en charge par les secours. Mais d'après le bilan ce soir, les 3 jeunes victimes n'ont pas survécu. La communication autour de leur âge est pour l'instant contradictoire. Certaines sources parlant d'enfants âgés de 6 à 11 ans, d'autres de 7 à 13 ans. Une enquête a été ouverte par les gendarmes pour déterminer quelles sont les causes du naufrage de l'embarcation.
Les précisions de Benoît Martin pour France Info. 2 enquêtes ouvertes pour des soupçons de violence policière à Saint-Ouen vendredi dernier. 2 interpellations controversée à 2 heures d'écart. Des témoins affirment notamment que des policiers ont amené 2 jeunes dans un hall d'immeuble pour les frapper. Un des policiers mis en cause dans cette affaire a aussi déposé plainte pour violence volontaire de la part de ces 2 jeunes. Une nouvelle poussée de fièvre aux urgences alors que 217 services sont en grève à ce jour. Vendredi, 12 hommes sont entrés aux urgences de l'hôpital Nord de Marseille armés de battes de baseball. Une rixe a éclaté avec un homme rencontré quelques heures plus tôt. Interpellés, ils ont été placés en garde à vue. Depuis des semaines, les syndicats demandent des filtrages à l'entrée de l'hôpital et la présence de policiers. La session 2019 du bac n'a pas fini de faire parler d'elle. Un examen particulièrement perturbé cette année par la grève des correcteurs. On apprend qu'au moins 17 candidats, pour la plupart recalés, ont déposé des recours devant les tribunaux administratifs, notamment des recours pour rupture d'égalité. Les pépins physiques s'accumulent au PSG après la blessure du milieu de terrain espagnol Ander Herrera. Le le défenseur allemand Thilo Kehrer entre lui aussi à l'infirmerie. Victime d'une blessure au pied droit, il est absent au moins pour les 2 à 3 prochaines semaines. Il est 20h33, la deuxième partie des informés. C'est tout de suite avec vous Nicolas Crozel.
C'était à Maya Cazenave.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Crozel.
De retour avec Michel Taube, le fondateur du site d'information Opinion Internationale, Antoine Colonna, rédacteur en chef des pages internationales de Valeurs Actuelles, et Flore Santisteban, maître de conférences à Sciences Po, chercheuse au CEVIPOF. On évoquait juste avant les infos ce sondage IFOP pour le JDD hier sur la popularité de nos élus. 33% seulement des Français ont une bonne opinion de leurs parlementaires, des députés et des sénateurs. 20% seulement considèrent que les politiciens en général, les hommes politiques et femmes politiques sont honnêtes. C'est des chiffres qui font réfléchir quand même. Et si on revient à cette question des députés coupés du monde, députés hors sol, est-ce que finalement, alors on a interrogé tout à l'heure le mode de scrutin, le fait que c'est une élection d'enregistrement de la présidentielle, et puis alors maintenant, depuis la loi sur le non-cumul des mandats, les députés ne peuvent plus être maires également. Donc là encore, on a peut-être déraciné un peu les élus nationaux, non, Antoine Colonna ?
Oui, vous avez raison. Et puis c'est d'autant plus aggravé que la plupart des députés qui ont été élus n'avaient pas de carrière politique avant. Donc ce sont des gens qui n'avaient pas de base, qui n'avaient pas
de relais
dans les circonscriptions. Donc c'est sûr que ça augmente le problème. Et vous savez, le problème aussi, c'est que les gens sont déçus. Pourquoi ? Parce qu'ils voient que les mêmes problèmes restent. Le chômage, le coût de la vie, l'insécurité.
On leur avait promis un nouveau monde.
Et on leur avait promis un nouveau monde. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on disait même tout à l'heure avec Marlène Schiappa. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une communication qui est très active et très, très efficace, mais la déception est d'autant encore plus forte si vous n'en avez pas les résultats.
Flore Santisteban.
Moi, je vous trouve un tout petit peu sévère quand même. C'est vrai que le chômage baisse dans le pays.
Les Valeurs Actuelles n'est pas le journal le plus qui soutient le plus Emmanuel Macron.
On peut pas dire moi non plus, je suis sa plus fervente soutien, mais pour autant, je suis peut-être moins sévère que vous. Mais sur la confiance, ça c'est important parce qu'en fait, les Français. Parce qu'au CEVIPOF, le CEVIPOF a depuis des années lancé une enquête qui
est le centre d'études de la vie politique française.
Française, ouais. Et qui donc a lancé cette enquête il y a de nombreuses années déjà. Et elle vient par vague tous les ans. Et par vague, on interroge les Français pour savoir quelle est leur confiance dans les élus. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une très forte défiance sur les partis politiques et les syndicats. C'est clair. Il n'y a même pas 15% des Français qui leur font confiance. Une très forte défiance vis-à-vis des parlementaires, parce qu'effectivement, ils ont, et ça c'est l'IFOP qui le montre, ils sont sans doute un petit hors sol. En revanche, vous avez une vraie confiance vis-à-vis des maires. Et le maire a une très bonne, les Français ont une très bonne opinion de leur maire. C'est d'ailleurs des élections pour lesquelles ils se mobilisent beaucoup.
Enfin, on a vu l'émotion la semaine dernière avec le drame du maire de Signes.
Voilà, et donc ça suscite un émoi. Et le maire, on le connaît. Voilà, c'est un élu de terrain de proximité. Donc je distinguerai effectivement selon l'échelon.
Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que du coup, le fait qu'on ne puisse plus être député-maire par cette loi, est-ce que là, il n'y a pas eu une sorte de schizophrénie des Français qui étaient contre le cumul en même temps, maintenant, disent on a des députés hors sol, Michel Taube.
Non, moi, je trouve plutôt normal que les députés et les sénateurs se consacrent entièrement à cet exercice hautement important qui est d'établir les lois, de voter les lois. Et autre exercice qu'ils font trop peu de contrôler l'exécutif. Non, le problème il n'est pas tellement là. Le problème, à mon avis, il est dans le système de la Ve République qui est totalement jupitérien, qui est certainement parmi les grandes démocraties un des systèmes les plus autoritaires à certains égards, puisqu'en fait il donne quasiment, comme vous l'avez dit Monsieur Crozel, quasiment tous les pouvoirs au président de la République. Si le président de la République est élu et que un mois ou deux mois après, il a une majorité absolue, il a tous les pouvoirs et il peut imposer, en fait, à sa majorité toutes les lois qu'il veut. Exemple, CETA. C'est vrai que beaucoup de parlementaires, de députés de la majorité auraient peut-être voulu s'abstenir, auraient peut-être voulu, pourquoi pas même voter contre.
Mais il y a une discipline de groupe.
Et voilà, il y a une
même
discipline
si on a eu un début de fronde.
Voilà, qui, Oui, mais c'est vraiment, alors c'est une mini fronde et je sais pas si le terme frondeur est adéquat parce qu'ils ont tellement le précédent des années Hollande que évidemment tout député qui aurait des velléités de fronde, de fronde réelle, serait vite isolé, voire écarté.
Voire écarté du groupe Force Antistémon.
Oui, parce qu'en fait, effectivement, il y a l'effet institutionnel de la Ve République, mais il y a aussi une question d'autorité ou non du chef de l'État. Et on l'a très bien vu avec François Hollande. C'est pas parce que les institutions le protégeaient qu'il avait les pouvoir exécutif. En plus, François Hollande a tout eu. Il a eu les régions, les départements, il a eu les mairies. Enfin, je veux dire, il avait tous les leviers du pouvoir au sens d'influence sur les élus. Et il n'en a rien fait, ce président. Et donc, effectivement, il a été très contesté et il a perdu une autorité son autorité assez vite. Et il a même été empêché de faire passer les textes qu'il voulait faire passer par la voie consensuelle, avec, on se souvient de la motion de censure, etc., etc. Donc effectivement...
Comment vous relativisez tout ça?
Je relativise le fait que c'est simplement l'effet de la cinquième. C'est aussi une question d'homme.
Antoine Colonna.
Oui, c'est vrai. Et puis il y a aussi un autre élément qu'on voit peut-être pas tout à fait, mais c'est que la France est dans un cadre aussi qui est le cadre européen. Et donc il y a certaines lois. Finalement, même le Parlement français est une chambre d'enregistrement des textes européens. Et c'est peut-être ça ce que les gens n'arrivent pas à comprendre ou refusent, parce qu'ils peuvent très bien comprendre et ne pas être d'accord. Il ne faut pas infantiliser non plus l'opinion publique et de dire que le pouvoir n'est plus au Palais Bourbon.
Non, mais au niveau des députés, pour une seule députée, c'est vrai qu'on a des députés un peu hors sol. Par exemple, la suppression de la réserve parlementaire qui a été votée sous le quinquennat Macron, qui était un moyen pour les députés d'être proches de leurs concitoyens en soutenant des associations.
Ah, c'était
non, mais fallait... je le dis volontairement. Non, parce qu'il
fallait un peu de transparence aussi. Hein,
non, mais c'était très transparent puisque ils pouvaient publier
à discrétion. Ils faisaient ce qu'ils voulaient de leur cagnotte.
Il aurait été préférable de les obliger à publier totalement de façon transparente ce qu'ils en faisaient parce que c'était un moyen pour eux d'avoir un contact avec leurs administrés. C'est vrai que là, il y a une coupure de nos représentants légaux. Le Sénat pavoise beaucoup en ce moment pour dire il est proche des élus locaux, mais le Sénat est mis dans le même panier que les députés par nos concitoyens. Donc effectivement, il y a une distance qui profite, je voulais vraiment le dire, qui profite à une seule, c'est à Marine Le Pen. Cette défiance, en fait, elle va faire le jeu des extrêmes et surtout de l'extrême droite.
Oui, alors très vite sur le cubil des mandats, je relativiserai la déconnexion parce que effectivement, on peut plus être député maire, mais on a quand même le Sénat qui nous permet d'avoir ce lien et qui le représente. Enfin, les sénateurs sont les représentants des collectivités territoriales.
Pas être sénateur maire non plus, mais enfin, effectivement, ils sont élus par les maires.
Ouais.
Alors, on va, puisque vous évoquez Michel Taube, la montée de l'extrême droite qui profite de ça, on va aller en Italie dans 2 minutes où justement là, on est au cœur du sujet. C'est juste après l'info à 20h40 et Thomas Bénèche.
Selon les informations de France Bleu, une panne moteur serait à l'origine du chavirage d'un bateau de plaisance aujourd'hui dans le Cotentin, au large de la commune d'Agon-Coutainville. L'accident a fait 3 morts, des enfants âgés de 7 et 11 ans. 3 adultes également présents sont eux légèrement blessés. Le parquet de Coutances a ouvert une enquête. L'entrée des urgences réservée aux pompiers désormais gardée à l'hôpital Nord de Marseille par 2 hommes munis de gilets pare-balles. Cela après une violente bagarre à coups de batte de baseball vendredi dernier. 12 personnes sont en garde à vue dans cette affaire. C'est ce que rappelle ce soir le ministère des Affaires étrangères. Les Français ayant combattu pour l'État islamique au Levant doivent être jugés au plus près des lieux où ils ont commis leurs crimes. Position exprimée alors qu'une experte de l'ONU demande au gouvernement français de rapatrier et juger 7 de ses ressortissants condamnés à mort en Irak pour terrorisme. Cette spécialiste onusienne souligne l'iniquité de leur procès. Vigilance requise dans le sud-est de la France. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers annonce un risque très élevé de feux de forêt autour du 15 août. Le vent soufflera très fort des Pyrénées-Orientales au Var. Enfin, dernier adieu à Jean-Pierre Mocky. Le réalisateur a été inhumé dans la plus stricte intimité dans le Val d'Oise. Cela après ses obsèques célébrées ce matin en l'église Saint-Sulpice à Paris. Le ministre de la Culture y a assisté, tout comme les comédiens Michael Lonsdale, Dominique Pinon. Le cinéaste est mort jeudi dernier, il avait 90 ans.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Et on évoquait avant la pause la défiance des Français envers les politiques, la crise de confiance, le désamour même, on peut le dire. Cette crise, elle dépasse évidemment nos frontières. En Italie, le seul qui semble trouver grâce aux yeux des Italiens, c'est Matteo Salvini, le chef de file de la Ligue, le parti d'extrême droite. D'ailleurs, fort de sa popularité, il a décidé de faire exploser la coalition au pouvoir. Le Premier ministre Giuseppe Conte semble bien impuissant au moment de rappeler à l'ordre son ministre.
Le ministre de l'Intérieur et chef de la Ligue doit s'expliquer auprès des électeurs qui ont cru au changement sur les raisons qui le poussent à interrompre de manière anticipée et brusque l'action du gouvernement.
Voilà, ça c'est Giuseppe Conte. On sent qu'il n'y a pas vraiment match. Hein. C'est très déséquilibré entre Salvini, Conte et Sonné, Antoine Colonna.
Oui, bien sûr. Et puis, de toute manière, il était là un petit peu pour prendre les coups. Il n'était pas, il n'avait pas d'épaisseur. Donc, le jeu, il était entre Salvini et Di Maio. Di Maio, c'est Cinque Stelle, c'est, on va dire, les populistes de gauche. Salvini, c'est les populistes de droite. Salvini, il y a à peine 2 ans, il faisait 4%. Son parti se réunissait dans les arrières-salles des pizzerias, il n'y avait personne. Aujourd'hui, il est à près de 40%. Vous avez en Italie un système qui est un système avec une proportionnelle importante. Donc il peut gouverner demain sans coalition, et en tout cas pas avec Cinque Stelle, parce que Cinque Stelle est pas tout à fait du même bord. Salvini est un phénomène politique, et justement il répond un peu aux questions qu'on se posait dans la partie précédente, c'est-à-dire que les Italiens aussi ont attendu, ils ont eu Berlusconi-Sarkozy.
Oui, c'est exactement ça, en tout cas il y a des liens.
Et pareil, après vous avez Renzi c'est un peu notre Macron, et les deux ont échoué. Et leur échec a fait, évidemment, Salvini.
Vous êtes en train de nous dire que c'est pas le débat du moment, mais que Marine Le Pen attend son heure.
C'est pas exactement pareil, mais il peut y avoir des similitudes.
Michel Taube.
Les Italiens annoncent souvent, effectivement.
C'est eux qui ont inventé la politique.
Et c'est vrai que Salvini, actuellement, alors je sais pas s'il peut gouverner seul, parce qu'il y a une nouvelle loi électorale qui a été introduite.
Oui, avec Forza Italia et Fratelli
d'Italia.
Voilà,
mais surtout ce qui est
une coalition de droite nationale. Et pas un attelage de gauche-droite.
Justement, ce qui se passe, c'est que, il y a 18 mois, lors des dernières élections législatives, c'est le mouvement 5 étoiles qui a eu le plus d'élus, qui a eu près de 30% des voix. 35. Et Salvini n'avait fait que 10-15%.
C'était la force d'appoint.
Voilà, c'était la force d'appoint. Mais c'est l'inverse qui s'est passé depuis. Toutes les élections locales ont été remportées par la Ligue. Et notamment les élections européennes, où c'est Salvini qui l'a largement emporté. Et il y a quelqu'un d'autre qui les a perdues très largement, c'est Berlusconi et Forza Italia. Donc pourquoi Salvini demande à ce qu'il y ait un vote de défiance pour pouvoir provoquer des élections anticipées, c'est parce qu'il considère qu'aujourd'hui il est en position de force pour prendre, non pas seul à mon avis le pouvoir, mais le leadership d'une coalition des droites.
Exactement.
Qui réunirait Forza Italia, qui est très affaibli, et également d'autres forces qui sont encore plus à droite que lui.
Et qui seraient peut-être idéologiquement plus proches, parce qu'on a bien vu quand même que cette coalition, elle était faite de briques et de brocs, ils étaient d'accord sur rien.
Plus que ça.
Flore Saint-Estève, vous êtes d'accord?
Ils sont d'accord sur le fait qu'ils sont populistes, et que donc ils sont prêts à faire toutes les alliances possibles pour avoir le pouvoir. Mais,
et d'ailleurs,
Souvent, il faut regarder à Rome, et ça c'est depuis l'Antiquité, hein. Vous regardez à Rome ce qui se passe, et puis vous avez généralement un duplicata à l'échelle de l'Europe. Non mais la question aussi, c'est de savoir effectivement si c'est une défiance ou si c'est un excès de confiance. Parce que gouverner seul, ça m'étonnerait qu'il puisse le faire, mais pour autant, effectivement, asseoir son leadership. Mais il le fait en fait depuis des semaines, hein, en plus en instrumentalisant des questions qui sont vraiment glauquissimes, si vous me permettez. Enfin, je veux dire, il surfe sur les migrants, sur le budget de l'Union européenne. Enfin, voilà.
Mais auquel cas, c'est passé pas. Enfin, je sais pas si c'est l'histoire du budget, par exemple. Oui. C'est exactement ce que les Italiens lui demandent, en fait. Les Italiens ne veulent plus que se serrer la ceinture pour Bruxelles. Et il leur dit, notre budget, il se fera à Rome, il sera pas à Bruxelles.
Donc, c'est populiste. C'est facile à dire. Regardez comment ça s'est fini avec Tsipras en Grèce.
Mais parce que Tsipras a calé. Mais Tsipras aurait pu ne pas caler.
Mais c'est pas vrai, parce qu'on est plus fort en étant unis, certes, dans la diversité. C'est la devise de l'Union européenne.
Oui, si on est d'accord avec ce que Bruxelles vous impose. Les Italiens, qui étaient l'un des pays les plus pro-européens de toute l'Union, vraiment vent debout. Il n'y avait pas plus pro-européen qu'un Italien. Aujourd'hui, l'euro a fait tellement de dégâts à l'économie italienne qu'ils sont quasiment tous contre.
Dans l'histoire de la construction européenne, si on remonte à 51, 57, le traité de Rome, la démocratie chrétienne.
Il y a encore 10 ans, tout le monde en Italie était pour l'Europe. Le drapeau européen, on voyait partout.
Après, il ne faut pas confondre l'Union européenne, le projet politique européen et les règles de gouvernance.
Les Italiens ne confondent pas. Ils voient très bien l'euro et ils voient très bien l'impact. Le nombre de jeunes Italiens qui partent aujourd'hui, et notamment les plus diplômés, c'est une catastrophe pour l'Italie. L'Italie est en danger mortel.
Alors, Michel Taube.
Non, après, ce qui a fait aussi le succès facile, j'ai envie de dire, de Salvini, c'est l'absence de solidarité européenne vis-à-vis des Italiens face à la poussée migratoire venue de Libye et du sud de la Méditerranée. On paye aussi très fortement le prix de ce que pendant ces cinq dernières années
on lorsque, a laissé les côtes italiennes enfin
voilà,
voir ces migrants
surtout,
se déverser
et que surtout les Européens n'ont pas été solidaires des Italiens. Je me rappelle des grands discours de nos dirigeants français qui disaient il faut soutenir les Italiens en prenant notre part de l'accueil des réfugiés qui se présentent à Lampedusa et au sud de l'Italie, et on en accueillait quelques dizaines. Vous allez à la frontière italienne franco-italienne, c'est toujours pareil. C'est la France n'est pas la réalité, c'est que ni la France ni l'Autriche ni d'autres pays européens n'ont été solidaires de l'Italie. Donc les Italiens se sont aussi des solidarités de l'idée de l'Union européenne, parce qu'ils ont vu que lorsqu'ils en avaient besoin, l'Europe n'était pas au rendez-vous.
Et là concrètement, il va se passer quoi demain? Normalement, il y a décision sur le calendrier de la motion de censure. Est-ce que vous pensez qu'on l'Italie peut échapper à des législatives anticipées ou c'est foutu cette fois?
Non, elle ne devrait pas y échapper. La seule chose, c'est que tous les autres vont jouer la montre, parce que ça soit le Cinque Stelle, que ce soit le PD, le Parti démocratique, ils essayent d'éviter à tout prix et de gagner du temps. Et d'ailleurs, ils sont en train de s'allier. C'est-à-dire que le Cinque Stelle, qui avait fait comme slogan de campagne, super populiste, on ne peut pas faire plus, je ne traduirai pas, mais va faire un coup pour nos amis du Parti démocrate et les autres.
Et le Matteo.
D'accord, aujourd'hui, ils sont en train de s'allier pour éviter.
Le mouvement 5 étoiles ayant été capable de s'allier avec Salvini, je pense qu'il n'aura pas beaucoup de mal à s'allier avec le Parti démocrate,
oui,
c'est-à-dire les sociodémocrates, ça leur permet de rester au pouvoir. Il y a un petit espoir, effectivement, d'une alliance des gauches, on va dire, si on met le mouvement 5 étoiles
dans
gauche.
La gauche et Matteo
il y a un petit espoir, mais
c'est une large gauche.
Mais la réalité,
gauche écartelée.
Voilà, justement, le problème, c'est que Salvini.
Et qui servira à Salvini, d'ailleurs.
Oui,
qui
exactement,
servira à Salvini.
Exactement, parce que tout ça, va apparaître comme étant de la cuisine et de la mauvaise cuisine italienne, alors que c'est une meilleure cuisine au monde. mais ça serait la mauvaise cuisine italienne, et je pense que ça va plutôt faire le jeu de Salvini. Salvini a un boulevard devant lui parce qu'aujourd'hui, il est le seul leader politique de dimension nationale qui vraiment pèse dans la vie politique italienne. Berlusconi est à la fin de sa vie politique. À gauche, il n'y a pas vraiment de leader. Di Maio s'est fait bouffer, entre guillemets, par Salvini. Donc, il va aussi certainement se maintenir sur le désert qu'il a face à lui de concurrents.
On va jouer la montre. Un dernier mot pour terminer sur l'Italie avant Flore Santisteban. Il y aura des élections et finalement, il y a de grandes chances que quand même Salvini gagne au moins la bataille de la quête du pouvoir.
Oui, il y aura des élections législatives anticipées, même si effectivement ils essaient de gagner du temps. Et effectivement, il sortira renforcé s'il arrive en tête. Et vu sa popularité, il y a de fortes chances effectivement que ce soit le cas.
Juste pour terminer, si on termine ce sujet, ça sera un référendum sur l'Europe.
Ce sera ça le sujet de campagne, selon vous. C'est terminé. Terminé là-dessus. Allez, on va parler. Tiens, puisque comment vous me le disiez là en italien tout à l'heure, hein,
de très désagréable.
Parce qu'on l'a entendu au Parc des Princes.
On l'a entendu
au Parc des Princes hier soir. On va parler de Neymar juste après le rappel de l'info à 20h50 avec Thomas Bénèche.
Trois enfants, deux âgés de 7 ans et un de 11 ans, sont morts aujourd'hui dans le Cotentin. Le bateau à bord duquel ils se trouvaient a chaviré en mer au large de la commune d'Agon-Coutainville. Trois adultes, parents des victimes, étaient également à bord. La mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur l'attentat de la rue des Rosiers en 1982 à Paris, voilà ce que demande le CRIF. Le Conseil représentatif des institutions juives de France appuie sur les déclarations de l'ancien patron du renseignement français au juge d'instruction en charge de ce dossier. Elle porte sur un marché conclu avec le groupe terroriste palestinien Abu Nidal. L'ex-responsable de la DST avait promis d'annuler toute poursuite en France en échange de l'arrêt des attentats dans l'Hexagone. La précision est apportée par la ministre de la Justice. Il n'y appartient pas au gouvernement français de décider de poursuite. Prise de position après que deux secrétaires d'État, dont celle à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, ont réclamé l'ouverture d'une enquête dans l'affaire Epstein, du nom de ce financier américain retrouvé mort en prison et mis en cause dans des agressions sexuelles sur mineurs. Le dossier aurait des ramifications jusqu'en France. Après un peu plus de 4 ans de présence dans le pays, la plateforme de livraison de repas à domicile Deliveroo va quitter ce vendredi l'Allemagne. 1200 personnes vont se retrouver mises à la porte. Deliveroo souhaite se tourner vers d'autres marchés plus porteurs. Enfin en tennis, l'Écossais Andy Murray reprend du service en simple. Il joue ce soir au Masters 1000 de Cincinnati. Il doit affronter dans les toutes prochaines minutes maintenant le Français Richard Gasquet.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Et comme on était en Italie, on va parler du sport roi en Italie et aussi en France quand même, le foot. Je vous rassure, je ne vais pas vous piéger, chers informés. Je ne vais pas vous demander de me dire si le PSG doit jouer en 4-3-3 ou en 4-4-2. Ce que je vois, Florent Santistéphan qui se retient du micro. Mais non, mais non.
Sur les deux, ils sont plutôt bons.
Michel Teub semble très bon en foot. Il y a deux ans, c'est une éternité dans le foot. Deux ans, Neymar débarqué au PSG. Il devait permettre au club d'entrer dans une autre dimension. Après deux saisons où les blessures l'auront empêché de jouer son rôle, notamment sur les matchs importants, et où il y a eu quelques frasques, l'heure semble être au divorce. Voilà, en langage très poli, il s'interroge sur la profession de sa maman, en gros, pour vous la faire en français. C'était hier soir, les travaux au Parc des Princes, des insultes de supporters envers celui qu'ils adoraient encore il y a quelques semaines. Neymar, c'est une star, mais c'est aussi un vecteur économique considérable. Est-ce que le PSG peut remonter le départ de Neymar qui semble inéluctable selon vous, Michel? Michel brûle d'envie de me parler de football, Michel Thaume.
Non, mais c'est important le football. Il se passe dans le foot des enjeux sociétaux, politiques, diplomatiques, aujourd'hui comme dans d'autres domaines. Le PSG a pu se payer Neymar, il pourra se payer son départ, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, Neymar, c'est la cerise sur le gâteau. C'est effectivement le joueur le plus cher du monde. C'est une star mondiale. Mais c'est vrai que, à partir du moment où le divorce est consommé, et j'ai envie de dire que hier, le divorce a été consommé dans les tribunes du Parc des Princes.
On a senti que c'est difficile qu'il puisse un jour refouler la pelouse du parc.
Je pense que ça va être très difficile. Le mercato se termine le 2 septembre. Je pense qu'avec ce qui s'est passé hier, qui n'est qu'une réplique de ce qui s'est passé en finale de la Coupe de France, le match Rennes-Paris-Saint-Germain, où Neymar s'en est pris à un supporter du Paris Saint-Germain.
C'est le début de la fin, peut-être.
J'ai envie, c'est le début de la fin. Là, il y a quelque chose de rompu.
Quand il montait chercher la médaille, quelque chose
s'est rompu. Parce que, un sportif, il vit quelque part sur la popularité que lui prête le public, les auditeurs, les téléspectateurs et les spectateurs dans les stades. Et le fait de s'en prendre à un membre du public, à un supporter, quelque part, Neymar a rompu le pacte qui le reliait à ceux par lesquels il existe.
Mais Neymar, c'était le joyau de la Ligue 1. On nous a dit la Ligue 1, c'est la Ligue des talents. S'il n'y a plus Neymar, c'est toute l'économie de la Ligue 1 qui est un peu chamboulée quand même. Vous achetez des droits télé, je pense à Mediapro qui achète les droits pour la saison prochaine. C'est comme si vous... Alors, je vais expliquer à Florent Santistéphan. Vous rentrez. Ben, par exemple, vous achetez une prestation dans un hôtel de luxe avec piscine, et puis quand vous arrivez, il n'y a plus la piscine parce qu'elle est en rade. Vous vous dites, bah mince, alors je me suis fait avoir. Ça vous plaît ou pas cette comparaison, Antoine Colonna?
Je comprends tout, Nicolas.
Moi aussi.
Mais en gros, est-ce qu'il n'y a pas là quelque part
et c'est là où on peut se demander aussi, mais où est le sport dans tout ça? C'est-à-dire que où sont ces équipes qui venaient, c'était des équipes des villes qui incarnaient les villes, etc. Aujourd'hui, c'est évidemment
du business. Il y en a dans le championnat français. Ouais, Saint-Etienne, par exemple. Strasbourg qui est remonté en Ligue 1 et qui a toute la ville derrière lui.
Moi, je sais pas si quand on regarde le PSG, est-ce que les Parisiens ont vraiment envie dans leur immense majorité de s'identifier à ces équipes de milliardaires en short, je sais pas.
Ouais, ça, c'est apparemment il y a du monde encore dans les stades et du monde qui regarde. Est-ce que vous comprenez, Flore, qu'on puisse en parler à ce point, parce que j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas spécialiste de foot, mais on est en train de parler de quelqu'un qui a un potentiel économique, ce joueur considérable, ça draine des milliards, c'est une économie, c'est aussi un peu de l'image de la France, la Ligue 1 de football si elle se passe bien.
Je comprends. D'ailleurs, vous avez parmi vos informés Thomas Clé qui excelle en foot. Vous devriez penser à l'inviter plus qu'en droit d'ailleurs. Mais
le petit tac.
Mais quand on voit effectivement, ça fait 5 ans qu'il s'acharne sur Bernard Tapie, qui vient d'être relaxé par exemple devant le tribunal correctionnel de Paris. Mais vous pouvez l'inviter sur le foot. Je comprends que on puisse en faire un sujet de discussion, et je comprends ce que ça peut générer en termes d'image et voilà. Et bon, après, il y a Neymar aussi, je retiens qu'il a été quand même sali par cette histoire d'agression sexuelle, et qu'on parlait au début de cette émission pour faire le rebond sur ses mises en cause. Il a bénéficié d'un non-lieu, et donc comme quoi on voit, et ça peut nous permettre de rebondir encore sur notre sujet sur les attaques publiques de la part des secrétaires d'État ou ministres, qu'il faut bien se garder de tout commentaire ou de toute accusation hâtive, parce que en réalité, parfois, vous pouvez aussi aussi avoir des cas où vous vous salissez un homme publiquement et in fine, il n'y a rien.
Il n'y a rien, en tout cas rien qu'on l'on puisse prouver et donc effectivement il est blanchi. Mais Michel Taube, il a peut-être payé aussi ça parce que le PSG n'aurait peut-être été moins enclin à le lâcher s'il n'y avait pas eu ce genre d'affaires quand même. Ça a nui un peu à l'image. L'image s'est détériorée même si à la fin il est blanchi.
Alors, pour l'instant, ils ne l'ont pas lâché.
Non, hein,
il n'a pas encore quitté Paris. Et c'est vrai que pour qu'il quitte Paris, il faut aussi que Barcelone ou le Real de Madrid, puisqu'il s'agit d'eux, veuillent vraiment l'acheter. Parce que la cote de Neymar a quand même baissé depuis 2 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Et comme vous le disiez en introduction, il a été absent de tous les grands rendez-vous. Il n'a pas aidé le PSG à réussir sa course à la Ligue des Champions. Il a eu des frasques privées qui ne l'ont pas honoré. Il a maltraité le public parisien, ce qui n'est pas non plus ça. Au Real de Madrid, ça aurait été impossible. Il aurait été exclu immédiatement. Donc effectivement, il n'a pas encore quitté Paris, mais ce mercenaire du sport, comme je le qualifie, effectivement, n'honore pas, je trouve, tellement le football. Moi, je préfère Mbappé, je vais vous dire, et lui, il est solidement ancré à Paris, j'espère pas encore longtemps.
Alors, on l'espère, effectivement, aussi, tous les amoureux du foot français, que le joyau restera ici. C'est la fin des informés, merci pour ce soir, Michel Taube, du site Opinion Internationale, Antoine Colonna, de Valeurs Actuelles, et Flore Santisteban, de Sciences Po et du Cevipof d'avoir participé aux informés. Les informés de France Info reviennent demain dès 20h.